nous recevons l'évêque Kazé Tsouka de la Belgique qui va nous exaucer le corps. Alors on acclame le Seigneur pour l'entrée de son serviteur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, et que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivons en ce moment. Que le Créateur soit vraiment glorifié pour ce moment qu'il a permis que nous puissions, ensemble avec vous, passer des moments pour pouvoir étudier la parole du Seigneur. Et je suis qu'un simple serviteur de Dieu, que le Seigneur va utiliser comme un vase pour pouvoir apporter de l'eau aux assoiffés de la parole de Dieu, parce que nous apportons de l'eau aux assoiffés de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire. C'est ce que Jésus nous dit. Même Ésaïe 55 nous dit ça aussi. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons développer qui s'intitule les discipulats. Je vous montre les syllabes, peut-être je vais pouvoir parler avec l'apôtre. On va voir comment vous le faire parvenir peut-être en fichier PDF. Donc c'est un cours que j'ai donné pendant plusieurs années. Donc jusqu'à aujourd'hui, je continue à le donner. Notamment, quand j'ai commencé à donner ce genre de cours, c'est depuis 1996 hein, que j'ai commencé l'école biblique, que j'ai commencé à faire la formation des serviteurs dans mon école d'abord, jusqu'à aujourd'hui, hormis ce qu'on avait fait avec l'apôtre Nestor, qui est pour moi un ami. Et puis, je dois vous dire que si j'étais venu à la SEM, c'est grâce à lui. C'est lui qui prêchait ce jour-là. Quand je l'ai écouté, j'ai vu un jeune qui prêche. J'étais motivé. J'ai dit, je reste dans cette église parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même des gens qui sont versés aussi dans la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, Dieu fait des choses que nous nous retrouvons tous en Europe. Que Dieu soit béni. Mais nous voulons parler d'un sujet qui est très important, comme je vous l'ai montré, qui est intitulé « Les discipulats ». Je ne sais pas si vous voyez bien là-bas, j'ai diminué la lumière. « Les discipulats », c'est le cours que nous allons développer. Dans ce cours, nous aurons un peu beaucoup de chapitres à développer, mais chaque chapitre a son importance. Le but de ce cours est scindé en 5 parties. Le premier but de ces cours, donc je suis d'abord directement dans le premier chapitre. Hein. Premier chapitre, c'est l'objectif du cours, si vous voulez bien. L'objectif du cours. Et dans l'objectif du cours, nous allons apprendre les 5 buts de ces cours, ou les 5 objectifs de ces cours. Le premier but, c'est pour faire des disciples selon la Bible. Parce qu'il nous a été recommandé de former les disciples selon Matthieu chapitre 28. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, enseignez-leur et faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes déjà dans le verset 18 jusqu'au verset 20. Donc nous avons besoin d'enseigner pour que ceux à qui nous enseignons deviennent des disciples, non seulement disciples, qu'elle-même aussi soit capable de les transmettre à d'autres personnes. Parce qu'on ne peut jamais... Allez, je vais dire à ce monsieur qui est en train de me déranger. On est en plein cours. Donc, on ne peut jamais devenir maître sans passer par les disciples-là. Un bon maître, c'est celui qui a été un vrai disciple. Ça, c'est le principe. Alors, le premier objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire les disciples selon la Bible ou selon les Écritures. Ça c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est pour apprendre comment faire le disciple. C'est le deuxième objectif. Si je parle vite, vous me dites, vous parlez vite, parce que vous devez prendre peut-être des notes. Le troisième objectif, c'est pour la transmission sacerdotale. Parce que nous devons transmettre ce que nous avons reçu à d'autres personnes qui vont continuer le ministère après nous. Et donc, s'il n'y a pas les disciples là, il n'y a pas la continuité du ministère. Si on parle de Jésus, c'est parce qu'il y a eu les disciples là. Il a formé des disciples qui ont continué son ministère en nous transmettant ce qu'ils ont reçu auprès du Seigneur. La raison pour laquelle nous continuons à faire la même chose. Parce que dans les disciples là, nous allons apprendre que les disciples là, c'est le prolongement de la main d'un leader sur un disciple. Dieu soit loué. Alors, les disciples là aussi, au quatrième point, c'est pour témoigner notre appel divin comme étant leader. Parce qu'un vrai leader doit devoir former des disciples. Et c'est ce qui fait la force d'un vrai leader. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2, Timothée mon enfant, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de les transmettre à d'autres personnes. Là nous sommes dans la technique ABC comme nous l'a enseigné notre père Dr Ngoy. Donc ce que nous recevons de nos leaders, nous devons être capables de les transmettre à d'autres personnes. Si nous sommes incapables de transmettre ce que nous avons reçu, c'est qu'on n'a pas été un bon leader. Et si ceux qui nous écoutent ne sont pas capables de transmettre ce que nous avons enseigné, c'est que nous avons mal transmis ce que nous avions reçu de la part de nos aînés aussi. C'est pourquoi dans Hébreux 13, verset 7, la Bible dit que considérez ceux qui vous enseignent la parole de Dieu, ou ceux qui vous ont enseigné la parole de Dieu, et regardez comment ils ont marché et imitez leur foi. Donc nous devons passer par l'imitation, à imitant ceux qui nous sont précédés. C'est ça, mais les disciples là, c'est imiter un maître, c'est ce qu'on appelle vraiment les vrais disciples là. Mais on va développer toutes ces choses après avec les versets à l'appui. Et les disciples là aussi, c'est l'expansion du royaume et la multiplication de la vision du leader. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui à l'école de l'apôtre Nestor. C'est-à-dire qu'il a reçu la vision de Dieu pour démarrer la chose. Nous tous nous sommes venus, nous apprenons, ça ne va pas s'arrêter par là. Demain après-demain, vous qui suivez les cours, vous pouvez faire la prolongation de cette école tout en ouvrant les extensions de cette même école. Et ça s'est réparpillé partout. C'est comme ça que moi je travaille dans mon ministère. Nous aussi, nous avons notre école qui s'éparpille partout. Mais je ne suis pas là où les autres sont en train de donner les cours. Mais juste les matières qu'ils ont eues de moi, ils continuent à les transmettre. C'est ça le vrai disciple en fait. Que Dieu soit loué. Donc tout ça, c'est les objectifs de notre cours qui sont dans le chapitre 1. Au chapitre 2, est-ce qu'il y a une question jusqu'au chapitre 1, là où j'étais?
Oui, c'est pour le cinquième objectif. Vous avez dit c'est l'expansion du royaume et la multiplication de...
La vision du ministère du leader.
Ok, multiplication de la vision du ministère.
Ah, voilà.
Merci beaucoup.
Ok, merci. Alors maintenant nous sommes au deuxième objectif. Dans le deuxième objectif, nous voulons apprendre ce que le disciple là est. Nous intitulons ça « Qu'est-ce que le disciple là ?» Qu'est-ce que le disciple là ? On ne peut pas parler du disciple là sans parler d'un maître et d'un disciple. On parle de disciple là parce qu'il y a deux personnes. Il y a un maître et il y a un disciple. Nous sommes dans le livre des Rois, chapitre 3, verset 11. La Bible dit qu'à cette époque-là, on a cherché un prophète qui devait, à qui on devait consulter l'Éternel. Le roi devait consulter l'Éternel. La réponse était simple. On dit qu'il y a ici Élisée, fils de Shaphasa, qui était ou qui versait l'eau sur les mains d'Élie. En d'autres termes, il dit qu'il lavait les mains d'Élie. C'est-à-dire, pour qu'Élisée soit maître, il a commencé par être d'abord disciple des maîtres. Il a commencé par être disciple des maîtres. Et puisqu'il a été disciple des maîtres, il a pris le nom de ce maître. En l'absence du maître, on cherche maintenant un prophète qui peut faire comme Élie faisait. On dit, mais non, vous cherchez un maître, mais il y a son fils. Élisée, celui qui versait l'eau sur ses mains. Il est encore là. On peut considérer l'Éternel par lui. Et là, on voit, on parle du maître et son disciple. On parle d'Élie et Élisée. En réalité, Élisée n'avait reçu jamais une vision. Vérifiez dans votre Bible. Vous êtes des prédicateurs tous. J'ai cherché ça. En aucune fois, Élisée avait reçu la vision que Dieu m'a donné la vision d'aller te faire telle mission. Non. Mais Élisée était dans la continuité de la vision d'Élie. Parce que Élie avait la vision de restaurer l'équipe de l'Éternel. Vous le connaissez, vous êtes des serviteurs de Dieu. Les enfants d'Israël se sont écartés de Dieu. Mais Élie était celui qui était restaurateur du culte. Parce que Baal les a écartés, le roi Baal. Le roi Akkad, il les a écartés en les amenant vers le dieu de Baal. Mais voilà, Élie va venir pour restaurer le culte de l'Éternel. Et quand Élisée va venir, il fait la même mission. N'oublions pas que Élisée n'avait pas qu'un seul disciple. Il en avait 150. Parce qu'il avait trois écoles de prophètes. Ou on appelle les fils des prophètes. Nous avons l'école de Bethel, de Jéricho et de Gilgal. Il avait dans chaque ville 50 fils de prophètes. Donc il avait 150 écoles de prophètes. C'est pourquoi le jour où il devait quitter pour partir, vous allez voir dans des rois, on nous parle des disciples qui décourageaient, ou les fils des prophètes qui décourageaient Élisée de ne pas marcher avec Élie. Mais la suite est que Élisée, ayant compris le secret de vivre dans l'environnement des leaders, on va parler de ça, de vivre dans l'environnement des leaders, il a compris qu'en s'attachant et en restant dans l'environnement des leaders, je vais recevoir quelque chose. Et l'histoire nous apprend qu'il a reçu le manteau ou l'esprit d'Élie sur lui. Ce qui fait que à la traversée, donc le retour d'Élisée après avoir traversé avec son maître, au retour, Élisée, qu'est-ce qui se passe? On constate sur lui l'esprit du maître. C'est ça le dispo là. On voit sur lui. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, verset 15. Les disciples disent, ah, l'esprit d'Élie est sur lui. C'est-à-dire, un disciple doit avoir l'esprit de son maître.
Amen.
Donc, on doit voir l'esprit du maître sur les disciples. L'onction du maître doit demeurer sur les disciples. Parce qu'un leader, même s'il meurt, son onction ne meurt pas. Son onction reste sur ses disciples qui continuent avec. C'est pourquoi vous voyez les choses que Jésus faisait, les disciples l'ont fait. Les gens venaient toucher le corps de Jésus, ils étaient guéris. Mais n'oublions pas, mais au temps de Pierre, ce n'est même plus les tissus, mais c'est son ombre qui guérit, parce que l'onction de leur maître continue à agir sur lui. Donc ce sont des choses très importantes dans le ministère. C'est pourquoi les disciples là, ce n'est pas un cours à jouer avec. C'est vraiment, si vous maîtrisez ça, c'est le fondement du ministère. C'est le fondement de la transmission sacerdotale. Dieu soit loué. Alors, dans le disciple, dans le deuxième point plutôt, nous sommes, qu'est-ce que les disciples là? Les disciples là, c'est l'art de la transmission sacerdotale. C'est l'art de transmettre à ses disciples ce qu'on a reçu en tant que leader. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, les disciples là, c'est l'art de la transmission et de la réception. J'explique bien, de la transmission et de la réception. Nous en faites pas, il y aura beaucoup de versets qui vont s'affluer. Hein. Il y a donc l'art de la transmission et de la réception. C'est-à-dire, le maître qui transmet et les disciples qui reçoivent. C'est pourquoi, pour Psaume 123, verset 2. Vérifions ensemble si vous voulez bien. La Bible dit, vous voulez vérifier ensemble? On peut lire ça si vous voulez bien. Vous voulez qu'on lise ensemble ou bien je peux lire directement?
Je peux lire avec ça pour gagner le temps.
Ok. Alors, dans ce texte, il nous est dit simplement que les regards des serviteurs ou les yeux des serviteurs sont tournés vers les mains de son maître. Et celle de la servante se tourne vers les mains de sa maîtresse. Mais d'autres versions nous disent simplement, les regards d'un serviteur doit être tourné vers son maître. Selon ce texte.
Oui, c'est psaume 125.
123. 123 verset 2.
Verset
2. 2. 2 à 3.
Deux.
Vous pouvez vérifier. Hein? C'est bon?
Très bien, homme de Dieu, merci.
Vous avez trouvé le verset?
Oui, j'ai trouvé, homme de Dieu, merci.
Ok, voilà. Ouais. Donc, les regards d'un disciple doit tourner vers le maître. C'est-à-dire, les disciples doivent avoir la soif de recevoir ce que le maître a. C'est la soif qu'Élisée avait. Donc, il suivait le maître, son maître qui est Élie, parce qu'il voulait recevoir quelque chose de lui. Un disciple qui n'a pas le désir de recevoir de son maître quelque chose, il fait une fausse route. Il ne peut pas devenir un bon leader. J'étais avec Dr Ngoy, notre père spirituel. C'est moi qui le conduisais en voiture. C'est moi qui l'ai appris à conduire la voiture. Mais c'est lui qui m'a appris la parole. Et à chaque fois que j'étais avec lui, on sortait beaucoup avec lui dans la voiture, on a fini d'écouter la parole à l'église, mais je l'importunais dans la voiture pendant qu'on parte. Où on est, je l'importune, je dis, mais pourquoi tu as pris ça? Donc j'importe pourquoi, je voulais avoir ce qu'il a. Un jour d'ailleurs, il est descendu de sa chaise, et moi je suis allé m'asseoir sur sa chaise. Il commençait à prier. Ben, lui-même, il ne connaissait pas cet enseignement. Que même si la chaise d'un leader, je peux recevoir son onction. Je suis allé m'asseoir sur sa chaise, moi j'étais déjà branché dans ses enseignements. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'esprit qui est dans cet homme, l'esprit d'enseignement, donne-moi-le. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Aujourd'hui, quand j'enseigne, j'ai dit, ah, l'apôtre Nestor peut témoigner, je ne prêchais pas longtemps, j'ai prêché seulement 20 et 30 minutes, miracle, c'est fini. L'apôtre Nestor, il a grandi avec moi dans le ministère, donc il veut vous témoigner, parce qu'il était mon ennemi même dans le ministère. Donc, j'ai prêché 20 et 30 minutes, je n'enseignais jamais. Mais, du fait de rester à côté d'un enseignant, d'un leader, et à chaque fois que je sortais avec lui, dès qu'il descend de la voiture, moi je reste sur sa chaise, je commence à prier pour recevoir ce qui était en lui. Et aujourd'hui j'enseigne, je donne des cours partout, je dis, ah, Dieu merci parce que je l'ai reçu de quelqu'un. Donc il faut savoir profiter de recevoir la grâce d'un leader, parce que les gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne sont ignorants de ça. Moi, les gens qui sont avec moi, les enfants que j'ai formés notamment, ils savent. Et quand je parle, ils ont besoin d'écouter ce que je vais dire. Quand je suis avec eux, ils ont besoin de prendre ma mallette. Quand je suis avec eux, ils ont besoin de poser des questions. Quand je suis avec eux, même s'il était programmé de prêcher du papa, je ne peux pas prêcher là où papa est. Soit toi tu m'imposes la main, moi je prêche. Sinon je ne prêche pas. Vous voyez? Même s'il connaissait la chose plus que moi, il dit, papa je ne peux pas prêcher. Toi tu m'imposes la main, pour moi je prêche. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris les disciples là. On était invités quelque part pour consacrer un pasteur. Donc, et de nos cocos. Donc, un de mes petits-fils qui est sorti dans le ministère, c'est le pasteur Philo qui l'a formé. L'église est en France. Donc, on était parti. J'ai dit, c'est toi qui vas consacrer cet enfant. Il dit, papa, je ne peux pas le faire. On était avec le pasteur Yelunga, qui est très connu, Jean-Paul Yelunga. Il est en Paris. Il a dit, mais j'ai dit, c'est toi qui dois consacrer. Il dit, papa, je ne peux pas le faire. Toi, tu es là, moi, je consacre. Je ne peux pas le faire. J'ai dit, non, c'est toi qui vas le faire. Il a dit, je ne peux pas le faire. Il dit, mais le jour de la consécration, notre consécration, c'est ton père spirituel qui est venu nous consacrer, non? C'est docteur Ngo qui est venu nous consacrer. Mais pourquoi toi tu me demandes de consacrer mon enfant? J'ai dit non. Il dit, toi tu étais là. Docteur Mouetela, toi-même, tu as dit, papa, c'est toi qui consacre. Et pourquoi tu me demandes je déconsacre? J'ai compris. J'ai dit, ah, il a compris la leçon. Là où il y a un père, on laisse l'onction du père couler sur vous.
Alléluia.
J'ai dit, là où il y a un père, on laisse l'onction du père couler sur vous.
Yes.
Même si vous étiez grand, laissez-vous être imbibé par lui qui descend sur la tête d'Aaron.
Alléluia.
Pour son 133. Ça descend sur la tête d'Aaron. Ça passe par les barbes. Mets-toi barbe. Fais-toi une barbe. Ne sois pas la tête. Même si toi tu es la tête, mais fais-toi une barbe. L'onction va descendre sur toi et ça va te toucher facilement. Et ça, c'est vraiment important en matière de leadership. Donc, les disciples là, c'est le fait de transmettre, le fait de donner ce qu'on a à une autre personne. Mais dans les disciples là, on a ce qu'on appelle l'art de la transmission et de la réception. Je transmets, celui à qui je transmets reçoit aussi à son tour. Il y a deux choses, le maître qui transmet et le disciple qui doit recevoir. C'est ça ce qu'on appelle les disciples là. Alors dans les disciples là, quand nous parlons du maître et des disciples, mais j'aimerais d'abord donner la définition des disciples. Qui est un disciple? Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple, c'est celui qui marche sur les traces de son maître. Jérémie dit quelque chose de très important. Jérémie 6, verset 16. Il dit, placez-vous dans le chemin des anciens. Observez comment ils ont marché et vous aussi, vous trouverez votre chemin. C'est-à-dire, si vous voulez devenir un leader influent, mettez-vous dans le chemin de ceux qui vous ont précédé, dans le chemin de vos pères, ou dans le chemin d'un leader. Observez comment ils travaillent, observez comment ils marchent, et vous aussi, vous ferez la même chose qu'il fait. Si Élie, ou Élisée plutôt, s'il était arrivé à séparer les eaux de Jourdain, c'est parce qu'il regardait le maître. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Rois, quand il a demandé à son maître de lui donner les doubles portions de son esprit, le maître lui a dit, si tu me vois, quand je serai enlevé. Donc, les disciples doivent avoir l'œil qui voit le maître. C'est important. Hein? Avoir l'œil qui voit les maîtres. Je dis bien, avoir l'œil qui voit les maîtres. C'est très important. Il y a des serviteurs aujourd'hui dans nos églises, il est avec vous, mais il n'a pas l'œil de vous voir comme étant un maître. Parce que lui, il pêche comme vous. Ou peut-être il a beaucoup de moyens que vous. Donc, il vous voit au même niveau. Or, il faut avoir l'œil. L'œil de voir comme un disciple. Ça, c'est très important. Et le disciple, c'est celui qui a l'oreille pour entendre. Pour Psaume 50, verset 4. Un disciple, c'est la personne qui a l'oreille ouverte pour entendre la voix des maîtres. Merci Seigneur. C'est-à-dire, pour Psaume 50, verset 4, la Bible dit que chaque matin, ô Dieu, éveille mon oreille pour que j'entende comme entend un disciple. Donc le disciple doit avoir l'oreille ouverte pour entendre la voix de son maître. À Kinshasa, j'étais à un moment où tous les matins, avant de venir même en Europe, je suis venu en Europe en 2003. Avant de venir, tous les matins, entre les années 2000 et quand les téléphones sont sortis, tous les matins, mon téléphone sonnait tôt au matin, à 6h, à 5h. Les gens ont besoin d'une parole pour qu'ils partent au travail. Il a besoin des mots qui sortent de ma bouche pour qu'il aille au travail. Parce que j'avais enseigné ces disciples-là. J'ai expliqué la bénédiction qui est liée sur le fait de vivre dans l'environnement des leaders. Non seulement l'environnement, mais de comprendre l'onction de son maître. Parce qu'un disciple doit comprendre l'onction de son maître. Quelle est l'onction que Dieu a déposée sur mon maître? C'est important. Si tu ne sais pas ça, tu ne vas pas demander ça comme Élisée. Élisée savait ce qu'était son maître. C'est pourquoi il demandait l'onction de son maître. Donc un disciple doit comprendre même l'onction de son maître. Doit voir les verbes de son maître. Doit voir le vocabulaire de son maître. J'ai ceux qui sont avec moi dans le ministère ou ceux que j'ai formés. Quand vous entendez Papa Cazin dire « Ah, comme Papa Cazin !» Ah, il parle parce que je les ai tellement influencés par mon langage positif. Il ne parle pas positivement. Je suis dans un ministère où je l'ai avant enseigné. Quand je n'ai pas l'argent, il dit « Ah, j'ai beaucoup d'argent, c'est rien ces derniers temps. » Ils savent que papa n'a pas l'argent. Quand on est malade, quelqu'un dit « Je suis malade », il dit « Non, on ne peut pas dire ça. » On dit « On n'est pas malade. Je me sens beaucoup plus mieux. » Parce que nous avons trouvé ça dans les Écritures. Ésaïe 33, verset 24 nous a dit que celui qui est à la montagne de Sion ne dira jamais qu'il est malade. Parce qu'il a obtenu le pardon de son péché. Donc, nous, on ne confesse pas. C'est notre nature, c'est notre façon, c'est notre foi. Nous ne confessons pas la positive négativité. Nous ne les confessons pas. Et tous ceux qui ont été enseignés par mon ministère non plus ne confessent la parole négative. On ne confesse pas la parole négative parce que nous savons les effets qui sont derrière la parole négative. D'ailleurs, pour aller plus loin, la Bible dit que dans Nombre 14, verset 28, je vous traiterai désormais selon les paroles qui sont sorties de votre bouche. Donc Dieu nous traite selon ce qui sort de notre propre bouche. C'est pourquoi j'ai expliqué ça à tous les disciples qui m'ont suivi et ils vivent comme moi. Ils confessent pas la négativité, ils confessent que la parole de foi. Donc c'est très important. Donc un disciple, c'est celui qui suit un maître, c'est celui qui copie son maître, celui qui marche derrière son maître, celui qui a le vocabulaire de son maître, c'est un imitateur. C'est un imitateur. L'apôtre Paul a dit, je pense 2 Corinthiens 11, il dit « Soyez mes imitateurs. » Parce que moi, je le suis de Christ. Donc, il faut être imitateur de quelqu'un. Quand vous n'êtes pas imitateur, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est ça qu'on appelle le disciple. Alors, le disciple est celui qui suit carrément un maître. Vous pouvez voir ça dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Donc, c'est quelqu'un qui suit un maître. Quelqu'un qui est sous l'instruction des maîtres, sous l'enseignement des maîtres, sous conduite des maîtres. Celui-là est appelé disciple. Alors, dans les disciples-là, nous pouvons aussi voir beaucoup d'exemples. Par exemple, si nous regardons l'histoire d'Adam et Ève, en réalité, Dieu a créé Adam comme un leader. Parce qu'il s'appelle Adam, l'homme, l'Ish, comme on se dit en hébreu, Ish. Et Ève est Isha. Ève est tirée de l'homme. Donc en réalité, Adam était leader d'Ève. C'est le maître de Ève. Parce que quand Dieu avait créé Adam, il a placé Adam dans le jardin sans que la femme soit là. Il lui a donné les instructions, le commandement sans que la femme soit là. Et la femme est venue après. Il a été créé dans le jardin. Mais l'homme n'a pas été créé dans le jardin. L'homme était créé dans la poussière quelque part. Mais il a été placé dans le jardin selon Genèse 2, verset 15. Il a été placé dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. Et il va sortir la femme dans le jardin. C'est pourquoi les femmes, une parenthèse, les femmes n'aiment pas la souffrance. Parce qu'ils ont été créés dans les jardins de bonheur.
Amen.
Nous les hommes, nous supportons ça. Mais les femmes ne supportent pas. Parce qu'elles, ils sont créés dans les jardins d'Éden. Alors, la femme, Ève, devait être disciple d'Adam. Selon les Écritures, si on vérifie les Écritures, je vais donner tous les versets, vous pouvez vérifier vous-même. Il devait être disciple d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui a réussi la vision de gérer les jardins. C'est à lui que Dieu avait dit. La Bible dit qu'il a été placé dans les jardins, Genèse 2, verset 15, pour les cultiver et pour les garder. C'est-à-dire que pour les gérer et pour l'utiliser. C'est à lui qu'on a donné cette responsabilité, ce n'est pas la femme. Mais quand la femme est venue, donc il doit recevoir les instructions de son mari. Tous les commandements qu'on a donnés au mari, la femme doit maintenant suivre les instructions qui sont données à Adam. Mais la femme, à son tour, n'a pas suivi toutes les instructions qui étaient données à la femme, à Adam. La preuve en est que lorsque le serpent l'a posé la question, si Dieu avait dit que le jour où vous mangez le fruit, ainsi de suite, vous mourrez, il a dit oui, Dieu a dit, si nous en touchons et nous en mangeons, nous mourrons. Dieu n'avait jamais dit à Adam si vous en touchez. Il a dit seulement si vous en mangez. Et là, le serpent a compris que il n'a pas bien compris ce que le maître lui a expliqué. Il a profité de le tenter. Si vous n'avez pas compris ce que le maître vous explique, vous serez tenté par le diable. Je croyais que quelqu'un acceptait ce que je disais. Je le répète, si vous n'avez pas compris ce que votre maître vous explique, vous aurez un ministère déjà hypothéqué.
Amen.
C'est pourquoi Ève était celui qui était séduit facilement parce qu'il n'a pas maîtrisé les conseils que Adam lui a donné comme étant maître. Parce qu'Adam était maître. Même dans le Nouveau Testament, dans un Corinthien, nous le voyons, hein, où on nous parle que l'homme est le chef de la femme. Hein. C'est clair. Donc, le chef, c'est le maître. Celui qui vient après, c'est le disciple. Voilà, se rendit au Seigneur.